Marie-Isabelle Ospina, Jean-Emmanuel Vermode Desroc, bonjour. Donc je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie aux éditions d'Argo de votre bande dessinée Guerrillero. En fait, il s'agit du portrait d'Alberto, personnage bien réel, que l'on va suivre depuis sa tendre enfance jusqu'à son implication dans le mouvement FARC, soit sortie, assez mouvementée, et surtout l'après de ces périodes. Comment est née l'idée de cette collaboration? Est-ce que le scénario de Marie-Isabelle qui a appelé le trait de Jean-Emmanuel, ou est-ce une envie de commune de traiter le sujet?
Maria, je pense que tu peux au moins faire le début de la réponse.
Alors oui, donc au départ, donc j'ai commencé à écrire, c'était pendant la période de la Covid. Donc d'habitude, moi je travaillais plutôt à ce moment-là et dans l'audiovisuel. Donc je me suis dit, je pourrais pas rentrer chez moi pendant un bon moment. Qu'est-ce que je fais? Donc du coup, j'avais déjà rencontré ce garçon, Alberto, depuis pas mal d'années. On était en discussion, je savais qu'il y avait quelque chose de possible au niveau du travail par rapport à ce qui m'intéresse et tout, à ce qui m'intéressait. Et donc, je me suis mise à écrire en me disant, il faut que ça sorte, il faut que j'ai un projet, et j'écris et je ferai des chroniques. Bon, je savais pas trop éditer par qui ni comment, parce que c'était pas mon métier, mais bon, j'avais envie de travailler sur ce sujet et tout. Et au fur et à mesure que le temps passait, j'ai commencé, il y avait les images qui apparaissaient, donc sûrement parce que je travaille l'audiovisuel, et donc je me disais, ah mais oui, donc je commence à imaginer les images, je me dis, ah ça serait une chouette BD, mais c'est né comme ça, je viens pas du monde de la BD, je n'avais pas lu beaucoup de BD, je sais pas, mais je me suis dit, ça serait super. Et à ce moment, après, jusqu'à ce que je me convainque que oui, qu'il fallait que ça soit une BD, et quand je rencontre Jean-Emmanuel pour la première fois, je le cherche pour ça, en fait, j'ai cherché un dessinateur, on m'a parlé de lui, on s'est rencontrés, j'avais déjà une centaine de pages écrites, et il m'a dit, ouais, pourquoi pas, il fait le pitch, donc il m'a dit, laisse-moi lire, donc il a lu, il a aimé, et là, on s'est mis à travailler ensemble.
Voilà, et donc c'est là que j'interviens, après qu'on se soit rencontrés, qu'on ait été présentés parce que Maria cherchait un dessinateur, et du coup, par une relation commune, tu as dit, oh, justement, je connais un gars qui fait de la BD. Et moi, j'en fais pas très souvent de la bande dessinée. Je suis un auteur un peu sporadique, un peu épisodique. Et voilà. Et là, le projet de Maria, ça m'a vraiment séduit d'abord parce que c'était très différent de tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Puisque là, il allait s'agir d'un projet en partie documentaire, ou en tout cas fondé sur de le
fait réel,
et très récente. Et voilà. Et l'idée, enfin le concept sur lequel partait Maria, là, m'a beaucoup plu. Au-delà de cette question du réel, c'était l'idée de présenter, d'aborder l'histoire d'Alberto sous la forme de petites histoires aussi concrètes que possible. Sur des
comme un journal finalement.
Oui, voilà, un peu comme un journal, comme des chapitres d'un journal, et l'idée qu'on allait diviser le récit comme ça en petites touches, en toutes petites histoires, et qui mises bout à bout de manière un peu impressionniste allait recomposer comme ça le fil de sa vie, et qu'il y aurait pas un fil narratif romanesque avec une très très grande continuité. L'idée, ça serait plutôt une succession de petits points que pas directement connectés entre eux, et que ça allait brosser sur le portrait de cette vie, et voilà, c'est ça qui m'a attiré au départ.
Marie, est-ce qu'il y avait une volonté de faire œuvre de mémoire? Est-ce qu'on peut dire que finalement ce récit est un récit engagé, voire militant?
Alors moi, je pense que ça dépend des
circonstances. Vous êtes quand même de là-bas, vous êtes né à Cali.
Oui, okay. Ça dépend de ce qu'on met derrière le mot militant. Moi, je me considère pas une militante, en tout cas pas dans son premier plan, si on peut dire, je sais pas. Mais je le suis évidemment. Je veux dire, tout ce qui m'intéresse, j'ai travaillé beaucoup le réel. Et oui, j'ai des projets où j'essaye de pas être mannequin, de voir les subtilités des choses. Donc, il y a, On peut dire oui, il y a une sorte de militantisme si on veut, mais en tout cas, c'est pas ce que je veux mettre en avant. Donc, je préfère quand moi, j'adore qu'on me raconte des histoires. J'adore raconter des histoires. Et si ces histoires font réfléchir d'une autre manière, font voir les choses autrement, mais tant mieux.
Yaya, on traite de thématiques lourdes. Comment avez-vous travaillé ensemble pour trouver le juste équilibre entre la dureté des propos et la poésie du dessin?
Effectivement, au départ, quand on a commencé à parler du projet avec Maria, je lui ai dit que j'envisageais, si on le faisait ensemble, de partir sur un dessin qui soit pas trop réaliste. Alors avant de me mettre à dessiner, je savais pas vraiment ce que je veux. J'ai besoin de faire pour savoir et pour valider ou ne pas valider certaines pistes, certaines idées. Mais je savais, j'avais plusieurs exemples en tête en fait qui me permettaient de savoir que c'était ça que je voulais plutôt que l'aborder avec un dessin plus réaliste. Je pouvais être en mesure de faire, ça aurait pas forcément été facile, mais j'aurais pu éventuellement le faire. Mais des exemples comme, pour commencer de manière très immédiate par l'Arabe du futur, mais moi ce que j'avais en tête c'était plutôt les bouquins de Shigeru Mizuki, c'est son expérience de vie pendant la guerre du Pacifique, là dans Opération Mort, où les décors sont très réalistes voire photographiques, mais les bonhommes sont vraiment des têtes très couillonnes, et ça empêche pas cette BD de fonctionner, d'être très forte et d'être d'autant plus forte que en tant que lecteur, je sentais pas qu'on voulait me surconstruire du pathétique et du tragique, parce que ça peut beaucoup m'agacer, et du coup je me suis dit il faut faire ça, justement faut pas surconstruire, faut faire confiance à l'histoire, et l'émotion passera sans qu'on ait besoin d'essayer d'en rajouter dans le pathos, quoi. Et c'était ça l'idée, voilà, ne pas en rajouter dans le pathos.
Et en même temps, si je peux rajouter quelque chose, c'est aussi que depuis le début, on voulait et grandir avec ce personnage, donc raconter l'histoire à hauteur d'enfance au départ, parce qu'il, quand on démarre, il a une dizaine d'années, et donc depuis le début, en fait, on a parlé de ça aussi, on a parlé de l'envie de faire quelque chose de doux d'une certaine manière, et quelque chose qui rappelle un peu l'enfance malgré tout. Donc je pense que ça c'était important aussi dans le choix en fait du dessin.
On a parfois difficile à admettre que c'est à 11 ans qu'il est rentré chez FA, qu'il a resté 5 ans. On dit qu'il est finalement il fait plus âgé au niveau du dessin. Est-ce que c'est un choix de représentation graphique?
Non, alors c'est peut-être juste une maladresse.
Une perception peut-être. De vous, il vous a censé qu'il
pouvait être plus âgé ou attirante au moment où il rentre. Honnêtement, dans notre esprit, on a essayé de faire en sorte qu'il ait l'air d'avoir 11 ans. Maria, qui était une lectrice très rigoureuse, je pense qu'elle a eu à peu près cette impression aussi, sinon elle me l'aurait dit. Mais après, j'ai travaillé pas mal pour gagner ma vie dans la presse jeunesse, et ça, c'est un débat récurrent. Je dessine un truc pour une commande, un roman jeunesse, peu importe. Et là, ensuite, j'ai en général mon interlocutrice, directrice artistique, graphiste ou rédac chef ou je sais pas quoi, qui va me dire, et il y a souvent des questions sans fin sur l'âge apparent des enfants. Ah, ton gamin, il est censé avoir 8 ans, mais moi j'ai l'impression qu'il en a 6, ou alors j'ai l'impression qu'il en a 10. Et moi, pour avoir des enfants actuellement de cet âge, un gamin qui a 11 ans, qui est passé par 7 ans, 8 ans, 9 ans, honnêtement, quand je les vois, je suis incapable de savoir à 2 ans près quel âge ils ont, vous voyez. Donc voilà, l'âge apparent des gamins en dessin, à chaque fois, pour moi, c'est un débat, c'est comme le sexe des anges, je sais pas, ça n'a pas de fin.
Comment avez-vous abordé la question de la représentation de la violence et de la résistance?
La représentation de la violence, on voulait, d'une part, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'on me raconte le quotidien de cette guerre, et cette guerre vécue de l'intérieur. Et là, donc, comme c'est pas moi qui le dis, on le voit aussi dans plein d'autres bouquins et tout ça, la guerre, c'est pas des combats tous les jours. Donc, il y a beaucoup de moments d'attente, il y a beaucoup de moments où ces gars et ces filles rigolent, ça raconte leur vie, donc c'est ça la guerre aussi, hein. Au haut du marcher, pour arriver à un lieu, et après rester là, et après devoir partir, parce qu'il y a un combat, bon, voilà. Donc, il y avait déjà ça, donc j'imaginais pas quelque chose axé que sur la violence, parce que bon, pour moi, c'était pas ce qui s'est passé tous les jours de sa vie. D'autre part, parce qu'il y avait dans ses récits beaucoup de toutes choses qui me touchaient et dans des expériences qui paraissaient banales. Et moi, je me disais, mais laissez-la où il y a le cœur des trucs importants pour moi. Donc, je voulais aussi donner une place importante à ce quotidien, en fait, à son quotidien. Et donc, c'était pas non plus, j'avais pas envie non plus de dire qu'on dise, ben non, alors on montre pas les trucs durs, parce qu'il y en avait aussi, il les a vécus, donc il s'agissait pas non plus de faire un truc un peu édulcoré. Donc voilà, donc je pense que c'est pour ça ce mélange, c'était pas, voilà. Ce que je ne voulais pas, c'était d'une histoire super noire, glauque, et parce que je le voyais pas comme ça quand il me racontait, quand il me parlait, donc je sentais qu'il y avait d'autres choses qui m'intéressaient aussi, donc je pense que c'est plus...
Et c'est vrai que l'expérience dans la guérilla, sur un livre de un peu plus de 200 pages, ça s'est raconté finalement sur une soixantaine de pages, en fait, entre l'enfance et la sortie. Et c'est vrai que sur 60 pages, finalement, si on voulait donner une proportion qui semble correspondre au vécu d'Alberto aux différents éléments, le fait qu'il doit se déplacer beaucoup, toutes les difficultés un peu liées à la survie en mode camping, etc. Et ben la part de combat actif, elle est présente, mais elle peut pas être si élevée que ça. Et comme l'idée effectivement c'était de brosser un tableau un peu vraisemblable de leur mode de vie, voilà, ça, elle se retrouve avec cette part portion relativement congrue. Et après, quant à la manière de la représenter, à mon niveau, en tout cas en tant qu'illustrateur, c'est vrai qu'elle était rarement complètement frontale. C'est-à-dire que les expériences de feu d'Alberto, il y en a surtout une qui est évoquée, et la plupart du temps, sinon, soit il a pu les fuir, soit il se les est fait raconter, et c'est le récit d'amis à lui qui ont eu des problèmes, et là, donc c'est raconté, et quand c'est des expériences qu'il a pas vécues, qui lui sont rapportées, on a un mode de représentation un peu différent, qui peut atténuer la portée visuelle, comme ça, de la violence. Et voilà, et parfois, et souvent aussi, il y a le danger potentiel, c'est-à-dire que souvent, il redoute, et heureusement pour lui, ça n'arrive pas. Comme quand il fait une espèce de mission d'espionnage, reconnaissance, en profitant de son statut d'enfant, là, je crois que c'est un moment où il a eu très, 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 très peur, et il n'y a pas eu un seul coup de feu tiré, quoi.
Et après, il faut dire qu'assez vite, il se retrouve opérateur radio, donc qui le protège, ça le protège de la guerre, parce que c'est un garçon très intelligent, et je pense qu'ils se sont rendus compte, parce que bon, et lui-même, et on le dit dans le livre, hein, opérateur radio, c'était plutôt des gens qui avaient une certaine expérience, une certaine maturité. Donc, quand on lui propose ça, il est très jeune. Il doit avoir 14 ans, un truc comme ça. Et donc, là, il était protégé de la guerre. Donc, c'est ceux qui partaient en premier. S'il y avait quelque chose, un cas d'attaque, qui partait limite avec, à côté du commandant, des flancs, des infirmiers, tout ça.
Oui, oui.
Les autres, débrouillez-vous. Donc, je pense que ça l'a protégé aussi de ça.
Jean-Manuel, vous utilisez la couloque de manière très parcimonieuse. Quel est le rôle de ces touches chromatiques? En fait, qu'est-ce que ce contraste radical vous permet d'exprimer que la couleur n'aurait pas pu atténuer?
Oui. Donc, pour expliquer aux auditeurs très brièvement, la bande dessinée, elle est colorisée dans une gamme de gris coloré teinté en bleu. Donc, c'est un peu monochromatique, mais ça permet de traduire essentiellement des lumières, des ambiances, jour, nuit, des tons relatifs entre bon du clair, du foncé, quoi. Et de temps en temps, effectivement, il y a des éléments qui sont en couleur sur une histoire, donc qui dure une page, deux pages, trois pages, et sur une histoire, c'est toujours le même élément qui est en couleur. Et donc l'idée, c'était comme d'avoir une espèce de spot, de projecteur, comme cette lumière de poursuite sur une scène de théâtre, pour éclairer le point qu'on considère comme important dans une histoire. Et donc c'était ça. Quand il y avait un point visuel focal à une histoire. Qu'on pouvait éclairer, je le faisais comme ça, et voilà, j'étais assez content de cette petite trouvaille. Alors je pense pas avoir complètement inventé ce truc, mais je pense que ça a été vraiment
utile. C'est un choix qui était évident dès le début.
Oui, Oui, parce que d'une part, je savais que je traiterais ça d'une manière très simple en termes de couleurs, parce qu'on partait sur quand même une espèce de montagne à gravir. Pour moi, j'avais jamais fait un projet de plus de 200 pages. Et pour des raisons économiques aussi, faire de la une couleur complète, ça aurait demandé pas mal plus de temps, et c'était difficile de le financer. En plus, j'étais pas convaincu que sur 200 pages, rappeler systématiquement que telle chose est verte, telle chose est bleue, telle chose, est... ça allait avoir un intérêt, quoi, les gens le savent. Et voilà. Et donc, et le fait de partir sur ces grilles, ça allait donc me simplifier un petit peu la vie, me permettre narrativement d'avoir quand même l'essentiel, c'est-à-dire des ambiances, des éclairages, du nocturne, du diurne, et en même temps, ça me permettait de réserver la couleur pour un emploi plus et rhétorique, plus éloquent que si je l'avais utilisé tout le temps.
La mort est omniprésente. On a l'impression qu'il y a une, par contre une sorte de banalisation de la mort. Je me suis demandé si la mort faisait partie de la culture colombienne, parce que en 2001, quand vous avez réalisé votre premier co-réalisé votre premier film, c'était donc l'interprète de la mort. On parlait déjà de c'était la Victoria qui faisait des autopsies pour vous confronter à la mort.
Ouais. Oui, la mort est omniprésente en Colombie, ça c'est sûr. On a un rapport à la mort qui est très différent, je l'ai appris quand je suis venue vivre en France, parce que sinon pour moi c'était mon quotidien, donc je voyais pas trop de différence.
Ça, il faut bien vous rendre compte que depuis 48 vous êtes en guerre quand même.
Ouais. Oui, et qu'on voit vraiment des choses, oui, qu'on voit pas ici en Europe au quotidien, en tout cas pas en France. Et donc oui, la mort elle est omniprésente. Après, on n'a pas le même rapport, parce que les gens connaissent plus le rapport à la mort qui ont les Mexicains, par exemple. Nous, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a une banalisation de la mort. On est confronté à des violences très fortes tout le temps, en fait. Et donc oui, la mort elle est présente là, et la mort en Colombie ça ne représente pas la même chose malheureusement qu'une mort en France, ça c'est sûr, oui. Et effectivement, depuis mon premier court-métrage, c'est un court-métrage documentaire d'une trentaine de minutes, le personnage principal, Victoria, c'est la co-réalisatrice, mais le personnage principal, c'est Yolanda Sarmiento, c'est une femme médecin légiste, donc qui travaille à la morgue, donc il reçoit tous les corps qui sont morts de façon violente dans un des pays les plus violents du monde. Et c'était à ce moment-là, Cali, c'était la ville la plus violente en Colombie. Donc pour moi, depuis que j'ai fait ce film quand j'avais une vingtaine d'années, je pense. Et c'était ces questionnements, en fait. Donc, comment voir la mort, la violence, la voir autrement pour que ça nous secoue, quoi. C'est ce que je me dis, c'est pas possible, ouais.
La notion de famille disparaissait, vous dites, au sein du groupe. Finalement, on était un peu comme dans une secte, hein.
Oui, d'une certaine manière. En tout cas, ce qui lui répond le commandant, c'est: de toute façon, ici, on a des morts tous les jours. Donc, que ton père soit mort il y a 8 jours ou 15 jours, qu'est-ce qu'on a à faire? Et donc, c'est plus dans le truc des communautés, oui, c'est évidemment comme chez les militaires, il y a encore, oui. Et donc, c'est ça qu'on essaye de transmettre, on est tous ensemble.
L'esprit de corps qui prime sur les relations personnelles, quoi.
Ouais. Il y a peu d'endoctrinement, finalement. On a l'impression que c'est plus une question de survie.
Oui, en même temps, en fait, ouais, c'est vrai que moi, je ne ressens pas chez Alberto, quand il me raconte ses histoires et tout ça, je n'ai jamais rencontré quelque chose de politique au premier plan. Au début de l'interview, on parlait de ça, d'être militant au premier plan. Et je n'ai jamais ressenti ça. Par contre, ce qui est sûr pour moi, parce que j'ai rencontré plein de gens qui avaient laissé les armes, anciens guerrilleros, anciens paramilitaires, même des anciens militaires, et je vois une différence mais abyssale entre les anciens guerrilleros et les anciens paramilitaires. Ils n'ont pas le même discours, ils s'expriment pas de la même manière. Donc quelque part, ce militantisme que je ne trouvais pas, en tout cas chez Alberto, peut-être que des gens plus âgés et qui ont intégré l'effort pour des raisons vraiment politiques, parce que c'est sûr qu'il y en a. Donc là, c'est le cas d'Alberto à 11 ans, il a pas évidemment de, ben il se pose pas les questions dans ce sens-là, quoi, politique. Mais et en tout cas chez lui, il y a tout ce côté un peu plus politisé, je le sens quand même, en fait, dans ses choix, dans sa manière de penser. Donc je le sens pas dans son plan, premier plan, comme on disait tout à l'heure, mais oui, je le sens. C'est quelqu'un quand même d'engagé, c'est quelqu'un qui a des valeurs, que pour moi, ce sont des valeurs de gauche, et donc ça se transmet, il y a quand même quelque chose qui se transmet, que je ne trouve pas chez les anciens paramilitaires, avec des personnalités très différentes, une manière de voir la vie très différente. Et oui, donc...
Jean-Emmanuel, en tant que Marseillais, est-ce que vous avez éprouvé certaines difficultés à vous approprier, à vous familiariser avec une culture qui n'est pas la vôtre ?
Alors, je vais être hyper pragmatique. J'ai pas forcément cherché à me familiariser. J'ai cherché à comprendre et en savoir le plus possible, et encore, alors par curiosité plus que par nécessité pour la bande dessinée, juste par curiosité intellectuelle, en savoir le plus possible, enfin en savoir un peu en tout cas sur la culture colombienne. Et puis Maria m'a aidé, m'a conseillé des films, m'a fait passer des films, et c'était très intéressant. Mais après, honnêtement, pour faire la bande dessinée, j'avais surtout besoin de ressources visuelles, et dans une certaine mesure, que je les comprenne ou pas, c'était pas si important que ça. Bon, essayer d'avoir un peu de jugeote, justement, pour évaluer la qualité des ressources sur lesquelles je pouvais tomber et évaluer leur pertinence. Oui, ça pouvait être bien, mais voilà. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que finalement, vraiment, concrètement, pratiquement, pour faire la bande dessinée, je suis pas sûr que d'avoir eu vraiment besoin de pousser à fond et de bien tout comprendre. J'ai essayé un peu plus par goût et par plaisir que par nécessité. Et voilà. Et après, de toute façon, j'avais une relectrice très très sévère. Et si c'était pas, et derrière Alberto aussi, qui relisait régulièrement les plans.
En fait, finalement, pendant 3 ans, vous n'avez jamais eu de contact avec Alberto?
Pas directement. Ouais.
Ça, Guetta, c'est voilà. Ouais.
Je lui posais des questions par Maria interposée quand on préparait des lots de planches. Ouais.
Et il y a eu certains changements qui ont été opérés suite à des remarques d'Alberto?
Oui, surtout, moi j'étais très...
Plus au niveau du scénario qu'au niveau de la présentation graphique.
Ah, d'accord. Et ben des deux, déjà. Bon, là, au niveau de scénario, je le connais depuis très longtemps. Et je le connais depuis une dizaine d'années. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Et je pense que j'ai saisissé quand même les choses, le cœur, à chaque fois les cœurs des choses, et les intentions pour moi étaient claires. Donc s'il y a eu des petits changements au niveau scénario, oui, mais pas quelque chose de très important, j'ai l'impression. Et après, on tenait quand même à lui montrer les planches, surtout de toute l'époque de la Garija, parce que moi, je n'ai jamais été là. Donc, je me dis, ça me fait peur de me dire, bon, ben là, c'est un ex-Garijero, un Garijero voit ça et que je dis, ben, n'importe quoi. Donc, je voulais pas trop ça. Et donc là, on avait des aides, donc on posait des questions bien précises, et on essayait des changer jusqu'à trouver vraiment de la bonne référence.
Et oui, voilà. Et pour anticiper, en fait, on voulait anticiper, parce qu'évidemment, c'est jamais très amusant de devoir corriger du boulot qui a déjà été fait. Donc, avant d'attaquer des lots de planches, des lots d'une vingtaine ou d'une trentaine de pages avec Maria, on faisait des séances où on relisait tout ça, et où moi justement je pouvais relever, ah ben tiens, ça va impliquer de dessiner ou de représenter telle ou telle chose, pas sûr d'aller spontanément vers la bonne référence. Est-ce que tu peux en profiter pour demander à Alberto de nous renseigner, de préciser les choses là-dessus? Et le temps que Maria fasse cet aller-retour avec Alberto, moi je pouvais avancer sur d'autres planches sur lesquelles il n'y avait pas de questions. Mais donc l'idée, c'était d'avoir autant que possible bien relu le cover avant, pour que quand je les attaque, je sois à peu près sûr que ça n'a n'allait pas y avoir de problème. Et le deuxième élément par rapport à ça, c'est que le choix d'une représentation pas complètement réaliste, de faire d'emblée comprendre au lecteur qu'on va être sur une représentation un peu stylisée, c'est aussi passer le contrat que, ok, on va pas être sur une exactitude visuelle absolue, il faut que ça
Et c'est comme ça que ça marche avec Alberto, que ce soit suffisamment vraisemblable et admissible pour que une Colombienne comme Maria ou un guerrillero comme Alberto puisse considérer que c'est ok, mais sans forcément chercher à mettre tous les rivets aux bons endroits sur les armes et ce genre de détails que je sais auxquels certains parfois sont très attentifs. Là, d'emblée, on voulait évacuer ça. Non, ok, c'est pas une BD où il y aura tous les rivets aux bons endroits sur les Kalachnikov. Ça va pas être la question.
En fait, il n'y a pas de jugement de votre part, pas de fin moralisatrice. Et pour reprendre une déclaration d'Alberto, j'ai réalisé que sans mon départ pour la guérilla, je n'aurais jamais eu la possibilité d'aller à l'université. Finalement, la guérilla, c'est une solution, enfin, comme on l'avait dit, donc une question de survie, mais à condition d'en sortir. Ça.
Et c'est toute la complexité de ça, en fait. Et c'est pour ça que moi, je tenais vraiment à raconter plein de choses différentes avec tous les grises qui sont là, quoi. Tous les parce que oui, en tout cas, dans un premier temps, pour lui, c'est une porte de sortie. Et même à la fin, c'est un peu ce qui est dit. Ben, ces garçons sans passé par la guerre, il serait jamais allé à l'université, ou alors il se serait passé je ne sais pas quoi, mais un truc de l'ordre aussi, un peu de miracle, un truc jamais quoi, un truc bien précis qui aurait fait qu'est machin, mais de toute façon c'est un peu la réalité des paysans très pauvres, bah, qui n'ont jamais accès à des études et tout ça, parce qu'il n'y a pas une présence de l'État dans ces zones rurales. Donc ça, et après c'est aussi je pense que après c'est pas si évident que ah oui bon mais c'était la solution, parce qu'il se trimballe quand même. On voit que c'est dur, hein, tout ce qu'il a dû encaisser. Si et aujourd'hui il a été construit par ça, et c'est pas facile d'avancer dans la vie quand on porte tout ça sur ses épaules. Et c'est je sens qu'il a une lourde responsabilité et qui ça me touche énormément, parce que je me dis bah on sent c'était pas un vrai choix. Et c'était le choix qu'il a fait, mais c'était pas un vrai choix. Et je pense que lui, il, quand il sort à l'âge de 16 ans et qu'il se rend compte de tout ce qu'il a produit et son intégration des FARC, et c'est super douloureux pour lui. Et encore aujourd'hui, après ce qu'il a vécu sa mère, après ce qu'il a vécu son frère, même sa sœur qui est partie avec lui. Donc je sais que c'est des choses qui ne sont pas faciles dans sa vie. Et donc on peut pas non plus d'une manière très légère dire ah ben c'est super son passage par la guérilla. Ben non, donc ça lui a apporté des trucs, mais ça lui a enlevé sûrement des choses. Donc dans la balance, ben je sais pas, c'est chacun ou même lui-même qui aujourd'hui ne pourrait pas donner la réponse. Mais est-ce que ça valait la peine? Justement, je n'en sais rien.
Grosse question.
Je n'en sais rien. Donc voilà.
Mais juste pour compléter, il y a en parallèle, mine de rien, le destin de sa sœur aînée, avec qui il finit par vivre, et qui a eu un petit peu les mêmes chances en termes d'accès à l'éducation, mais sans avoir à passer par la guerre. Mais en revanche, ce qui semblait nécessaire, c'est effectivement de quitter la famille très tôt, puisque elle est placée, alors qu'elle est encore gamine,
13 ans.
À 13 ans, dans une famille qui la prend un peu comme domestique, en échange de quoi, comme elle a eu la chance de tomber sur une famille plutôt réglo, je pense que c'est pas forcément le cas, il y en a peut-être qui se contentent d'avoir des espèces d'esclaves domestiques, mais là, elle est tombée sur une famille assez réglo, et qui a rempli sa part du deal, et qui, contre le travail de cette jeune fille, lui a permis d'avoir accès à une éducation, y compris à un enseignement supérieur, puisqu'elle a, je sais pas quel diplôme dans l'enseignement supérieur, et qu'elle travaille plutôt dans le domaine de la banque.
Et en même temps, avec une vie pareille, comme celle d'Alberto, et pas sereine non plus, hein. Donc c'est pas une fille c'est pas une fille qu'on voit complètement épanouie. Ben sa vie a été facile, pas du tout.
Oui, mais parce que
donc elle a elle charge aussi.
Ben parce que celle-ci a perdu toute sa famille, et c'est pour ça qu'elle en veut à son frère, parce qu'elle considère qu'elle a perdu sa famille, peut-être beaucoup à cause de l'engagement d'Alberto et de son autre sœur chez les FARC.
Les Européens ont été assez touchés par ce qui se passait en Colombie avec l'épisode de Ingrid Betancourt, qui a été captive de 2002 à 2008. Est-ce qu'à un moment, vous avez envisagé d'aborder l'épisode Betancourt?
Non, jamais, parce que je pense que c'est le genre de sujet qui m'intéresse pas vraiment. En fait,
est-ce qu'Alberto était conscient de ce qui se passait et d'impact que ça pouvait avoir dans le monde, puisque cette libération, tout le monde se battait pour l'avoir.
Ouais. Et Ça, je pense que, en fait, c'est qu'il y a une différence entre, pour les Européens, c'est que ça signifiait, justement, le kidnappement de Ingrid Betancourt, c'était tout un truc. Moi, je pense que ça faisait pas longtemps que j'étais en France et j'entendais parler de ça, là, ou en Colombie, c'était une de plus, quelque part. Mmh. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'était un peu surdimensionné. Et même si, et avec ça, je suis pas en train de dire que c'est pas grave le kidnappement, non, c'est terrible, quoi. Elle a été une vraie victime. Et tout, mais comme elle, il y en avait plein. Donc du coup, en Colombie, on parlait pas tant que ça. C'est d'Ingrid Betancourt, il y avait pas tous ces
localisés.
Ouais, je l'ai ça. T'es plus en Europe, et donc ce genre de sujet m'intéresse moins a priori parce que je me dis, je suis plus intéressée par ce qui paraît banal en fait. J'adore de retrouver l'extraordinaire dans la banalité. Et les choses, parce que je pense que c'est les choses qui me touchent le plus, je pense, dans le monde. Donc, du coup, à partir de quelque chose où il y a beaucoup de bruit, ça me fait moins envie. Et je trouve que pour moi, mais après, c'est ce qui m'intéresse personnellement. Donc, je me disais, la vie d'Alberto, il en a eu plein comme ça. Et c'est super. Et chouette, parce que je trouve qu'il est très conscient de ça. Il est super heureux, Alberto, de ce livre. Il est content que ça, qu'on raconte cette histoire et tout. Mais il me l'a dit à plusieurs reprises, encore il y a pas longtemps. Il m'a dit, et c'est une histoire parmi plein d'autres. Donc il a cette conscience que il n'est pas quelqu'un d'exceptionnel. Et ça, je trouve que c'est bien. Et ben, oui, il est pas quelqu'un d'exceptionnel, tout en l'étant d'une certaine manière, parce que bon. Mais quand même, en tout cas, c'est pas un euro. En Colombie, on le place pas comme un euro. Personne ne le connaît, tu vois, c'est pas Ingrid Betancourt.
Ah oui, puis de toute façon, il a fait tout ce qu'il a pu jusqu'à ce livre, en tout cas, pour ne pas être connu.
Ouais.
Parce que, voilà, pour les auditeurs, à partir du moment où il quitte la guérilla et où il intègre ce dispositif de réinsertion, voilà, il va faire profil bas et il prend conscience, il a très vite conscience du fait que, le fait de dévoiler son passé de guérillero risque d'être très, très mal accepté par les gens qui peut être amené à rencontrer, et donc avant éventuellement de le confier de rares fois, il s'assure que les gens vont réagir d'une manière plutôt positivement si possible, quoi, et qu'ils vont pas courir le fuir ou essayer d'aller le dénoncer, je ne sais quoi, alors que bon, par ailleurs à ce moment-là normalement il peut plus vraiment avoir de problème avec la loi en raison de son passé, mais voilà.
Et le paradoxe, c'est que quand on a beaucoup insisté, je lui ai posé plein de fois la question, s'il voulait qu'on change son nom ou pas, son prénom et tout, et ce qu'on a fait pour tous les autres personnages, parce qu'on s'est dit bon, les gens ils sont pas en train de choisir, donc on le fait d'emblée. Mais avec Alberto, j'ai posé la question et il a tenu jusqu'au bout à garder son prénom. Donc c'est marrant quand on voit dans l'histoire comment justement ça a été ce que tu viens d'énoncer, donc tout cacher son passé, mettre plein de masques pour avancer dans la vie. Et cette envie, mais vraiment cette envie, et non, c'est moi. Et au moment justement où, à la fin du livre, il y a un petit texte et où il raconte où il en est aujourd'hui. Et on a posé la question pour la photo et il a dit oui. Donc ça dit beaucoup de choses aussi sur cette envie, peut-être de se libérer de ça, quoi, de ce truc de devoir se cacher toute sa vie, quoi.
Et le fait aussi que les années ayant passé, il y a une acceptation plus facile peut-être
de son passé,
parce qu'il en est maintenant très loin, et donc s'il dit aux gens qu'il rencontre il y a 10 ans ou il y a 15 ans
mais il le fait pas, et je pense que ça il le fait parce que d'une part il nous a fait confiance et il s'est dit voilà, là il y a une histoire qu'on peut lire du début à la fin, et une histoire qui me ressemble, avec laquelle je me sens oui.
Un témoignage complet.
Exactement, parce que après, il le dit pas. Je veux dire, il a l'âge qu'il a, il fréquente plein de gens et personne ne le sait. Toujours aujourd'hui, donc parce que peut-être qu'il peut pas s'asseoir et parler pendant je ne sais pas combien d'heures ça lui irait s'il racontait toutes ces histoires.
Oui, c'est ça. Là, ça c'était. Oui, s'il en parle, c'est comme lâcher une bombe. Alors que si ça arrive via la médiation du bouquin, voilà, c'est toute la différence entre lâcher une bombe et avoir le temps d'expliquer, de nuancer via un livre qui raconte tout son parcours et qui fait que effectivement, je pense que même des Colombiens qui peuvent avoir été d'une manière ou d'une autre touché par cette guerre, après la lecture de ce livre, je pense pas qu'il puisse juger aussi durement et catégoriquement Alberto que si il venait juste de leur dire ah oui, au fait, j'ai été guerriero de telle année à telle année.
Maria Jean-Emmanuel, un grand merci. Donc on rappelle guerriero qui vient de sortir aux éditions d'Argo. Merci.
Merci à vous.